Bonsoir à vous tous. C'était une journée juste magnifique aujourd'hui, les amis. Vous avez vu ça, les montagnes, extraordinaires. Et je suis juste curieux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était debout pour le lever du soleil ce matin? Ah ouais, quand même. Priscilla n'est pas très contente de lever la main. Justement, c'était pas ton choix. Moi non plus, je n'étais pas debout, mais j'imaginais juste en fait ce que c'était comme lever du soleil avec une journée juste extraordinaire comme aujourd'hui. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, la découverte de Jésus ressemble un peu au lever du soleil. Au début, on ne voit pas grand-chose, tout est flou, on manque de repères. Mais petit à petit, le ciel commence à s'éclairer. On perçoit des objets qu'on ne voyait pas, des couleurs qui étaient auparavant voilées par la nuit. Et puis, quelle joie quand les premiers rayons du soleil apparaissent enfin sur l'horizon et allument les cimes de la Chartreuse. Ce spectacle annonce une bonne nouvelle. Un nouveau jour commence. Ce qui est quand même intéressant, c'est que l'arrivée d'un nouveau jour n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pouvez imaginer des personnes qui ne seraient pas contentes de l'arrivée d'un nouveau jour? Vous pouvez juste le dire. Si vous pensez à quelques situations, je vous donne un exemple. Un ado, en fait, qui a pris la voiture de son papa, bon, il a 18 ans, hein, qui rentrait dans un poteau la veille. Et il sait que le lendemain, son papa va voir les dégâts de ce qu'il avait de la voiture. Est-ce que vous pensez à d'autres situations comme ça où on ne serait pas très content de l'arrivée du lever du soleil, d'un nouveau jour? Ah oui, fin des vacances. Très bon exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ouais, le jour où on dit au revoir à quelqu'un, tout à fait. Si tu souffres énormément et un nouveau jour, c'est juste le début d'une nouvelle journée de souffrance et de douleur, effectivement. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour ne pas accueillir avec joie le lever du soleil, la lumière d'une nouvelle jour. Et j'aimerais vous inviter à examiner dans ce texte que Juliette vient de lire, Jean chapitre 9, toi, type de personnes qui font face à la lumière d'un nouveau jour, la lumière de Jésus. La personne qui accueille la lumière d'un nouveau jour avec joie. La personne qui n'accueille pas la lumière d'un nouveau jour, qui aura plutôt tendance à rejeter cette lumière. Et puis la personne qui a peur de prendre position. Trois types de personnes. Avec aussi une invitation à se poser la question, je m'identifie à laquelle de ces trois catégories de personnes. Et avant d'examiner ces trois personnes dans le texte de plus près, j'aimerais juste qu'on s'oriente un peu face à ce gros texte que Juliette vient de lire. Notre texte commence avec une discussion entre Jésus et ses disciples concernant la situation d'un homme aveugle de naissance. Et je reprends juste la lecture en verset 2. Je me retrouve encore dans ma Bible que j'ai fermée. Donc verset 2. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et peut-être ça t'arrive aussi parfois de penser qu'une souffrance que tu vis est la conséquence d'une faute de ta part ou peut-être de la faute de quelqu'un. Un mauvais choix pour lequel Dieu te punit. Peut-être même maintenant, tu vis dans des circonstances difficiles avec cette question en tête. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour mériter une telle punition? Bon, je pense qu'il y a un certain pourcentage peut-être de personnes en France qui croient à ce qu'on appelle, est-ce qu'on dit le karma, ça vous parle? Le karma, cette idée que ben, si je souffre maintenant, c'est à cause de quelque chose de mauvais que je fais, que ce soit dans cette vie ou peut-être dans une vie précédente. Mais Jésus introduit une autre perspective sur la souffrance de cet aveugle né en verset 3. Il répond en disant ceci, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Ce que Jésus est en train de dire, que nos souffrances ne sont jamais une conséquence de nos mauvais choix. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. La Bible dit clairement que le péché nous expose à des souffrances, tant dans cette vie que dans la vie à venir, après la mort. Mais ce que Jésus dit ici en verset 3 nous montre que toute souffrance individuelle n'est pas une conséquence directe d'une faute, d'un péché, de la part de la personne qui souffre, ou peut-être d'un membre de son entourage, même si on est tenté d'imaginer que c'est le cas, surtout quand c'est nous qui souffrons. Dans la perspective de la Bible, les épreuves, les souffrances sont parfois, sinon souvent, une valeur pédagogique, formatrice, révélatrice même. Elles fournissent à Dieu une opportunité de nous ouvrir les yeux pour qu'on voit mieux qui il est vraiment, par exemple. Qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement dans ma vie, dans le monde, au sein de mon entourage peut-être. C'est probable que plusieurs qui sont là aujourd'hui traversent une période difficile en ce moment, que ce soit sur le plan physique ou peut-être psychologique ou relationnel, peut-être dans un autre domaine de la vie. Et si c'est le cas pour toi, peut-être tu te dis, ben, Dieu, il est en train de me punir maintenant. Ou peut-être Dieu m'a abandonné tout simplement. Ou peut-être Dieu n'existe pas. Je ne peux pas croire qu'il soit là et qu'il me permette de souffrir ainsi. Et franchement, si c'est ce qui se passe dans ta tête actuellement, je peux te dire que je comprends très bien. Je suis moi-même passé par des moments comme ça avec ce genre de pensée en tête. Mais j'aimerais t'encourager ce soir, face à ce texte, à rester ouvert à la possibilité qu'il y ait une autre explication pour tes souffrances. Une autre réponse à la question pourquoi? Pourquoi est-ce que je souffre ainsi? Et ce que Jésus suggère ici en verset 3, c'est que parfois, la souffrance ouvre la porte pour que Dieu fasse quelque chose de bon, quelque chose de beau, pour qu'il se révèle à nous et pour que sa lumière brille dans nos vies d'une nouvelle manière. Et je vais juste m'arrêter là pour prier avant de continuer. Je reconnais, Seigneur, que c'est facile pour moi de me mettre devant tout ce groupe et de parler ainsi sans être vraiment conscient des détails précis de différentes souffrances et épreuves qui sont vécues par différentes personnes ici ce soir. Mais Seigneur, toi, tu vois tout. Et je prie que, alors que mes paroles soient plutôt faibles, peut-être pas très convaincantes, je prie que ta parole agisse avec puissance dans le cœur de chacun, de chacune, surtout ceux qui ont du mal à croire que tu as quelque chose de beau prévu pour ce temps d'épreuve, que tu es à l'œuvre et que tes œuvres se révèlent même grâce à ce que ces personnes sont en train de vivre. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Continue avec les versets 4 et 5 où Jésus dit ceci, « Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Là, il parle de Dieu le Père. « La nuit vient où personne ne peut travailler. » Il fait probablement référence à la mort, peut-être la mort en général, peut-être plus précisément à sa mort qui s'approche à grands pas. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. On peut dire que c'est ça la déclaration principale de ce chapitre 9 et qui donne suite à ce qu'on a déjà vu avec Aurélien en chapitre 8 la semaine dernière où il a fait cette même déclaration. Je suis la lumière du monde. Et puis dans les versets 6 et 7, nous avons un bel aperçu du genre d'œuvre qui fait briller la lumière de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il guérit les yeux d'un homme né aveugle. Puis à partir du verset 8, nous ne voyons plus Jésus jusqu'au verset 35. Il n'est pas là dans les événements de la suite. Mais il reste quand même sous les feux des projecteurs parce que toute la discussion qui aura lieu par la suite tourne autour de lui, de son identité. Encore une fois, Jésus a fait une guérison le jour du sabbat et les chefs religieux, comme d'habitude, ne sont pas contents. Mais avant de parler des chefs religieux en plus de profondeur, je vous invite à juste examiner le cheminement de cet homme qui était aveugle et qui maintenant voit grâce à Jésus, grâce à sa lumière. Donc, je commence avec un premier point. Premier type de personne, la personne qui accueille la lumière d'un nouveau jour, la lumière de Jésus. Et en verset 10, les voisins de l'homme qui était aveugle et qui maintenant voit lui posent une question. Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Et si vous regardez un peu dans les versets qui précèdent, c'est la grande question qui se pose 5, peut-être même 6 fois. Comment? 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 On veut savoir comment est-ce que ça s'est passé? Et en verset 11, l'homme il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Voici son témoignage, très simple, très précis, très direct, c'est exactement ce qui s'est passé. Il va répéter ce témoignage à plusieurs reprises au cours de notre texte. Mais c'est intéressant de noter quelle est sa compréhension de l'identité de Jésus là. L'homme qu'on appelle Jésus. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça commence tout simplement là. C'est un homme, tout court. C'est un homme qui a fait beaucoup de bien. C'est un homme peut-être exceptionnel. Il a pris soin des pauvres, des malades, des prostituées, des enfants, des personnes en bas de l'échelle de la société. Et peut-être c'est le cas pour toi aujourd'hui. Peut-être tu te situes là dans ta découverte de la personne de Jésus. Tu ne connais pas grand-chose à son sujet, mais le peu que tu sais te donne l'impression que c'était quand même un homme formidable. Peut-être un peu comme Gandhi, ou comme Martin Luther King, ou comme Nelson Mandela, ou comme la mère Thérèse. Et je peux te dire, si c'est le cas pour toi, c'est un très bon point de départ. Effectivement, Jésus était un homme formidable, quelqu'un de plutôt exceptionnel. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que cet homme né aveugle ne s'arrête pas là, dans sa découverte de l'identité de Jésus. Regardez les versets 13 à 16 avec moi, là où nous voyons que les chefs religieux ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Certains disent que Jésus, c'est quand même quelqu'un de mauvais, ce qu'on appelle un pécheur, car il a fait une œuvre de guérison le jour du sabbat. C'est quelque chose qui est interdit par la loi de Moïse, selon les chefs religieux. Mais d'autres disent en verset 16, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» Et il y a eu division parmi eux. Verset 17, « S'ils dirent encore à l'aveugle, qui n'est plus aveugle justement, toi, que dis-tu de lui ?» puisqu'il t'a ouvert les yeux. Et il répondit, c'est un prophète. Intéressant, c'est un prophète. Avant, c'était juste un homme, peut-être quelqu'un d'extraordinaire. Là, c'est un prophète. Et on voit que cet homme, il va plus loin dans sa vision de l'identité de Jésus. Ce n'est pas simplement un homme qui aide les personnes en difficulté. C'est un homme qui a quand même une relation étroite avec Dieu. C'est un homme qui part de la part de Dieu. Dieu semble exaucer les prières de cet homme et donc il doit être quelqu'un de très saint, de très religieux. Et c'est possible que certains d'entre vous aient cette vision de Jésus aussi. Vous allez plus loin que juste l'idée que c'est un homme formidable et vous vous dites, tiens, c'est un homme qui est très proche de Dieu. Un homme peut-être comme ceux qui ont lancé des mouvements religieux dans le passé, comme Mohamed par exemple. Mohamed, vous dites comme ça en français, Mohamed, le fondateur, non. Mahomet, exact, merci Priscilla. Mahomet, le fondateur de l'islam, ou Siddhartha Gautama, le fondateur du bouddhisme, vous savez ça, bon, Chloé, on n'a pas entendu ce nom avant. Joseph Smith, ça vous parle un petit peu, fondateur du mouvement mormon. Peut-être Jésus est comme un de ces hommes-là. Un homme religieux, un saint, un prophète. Il va plus loin dans les versets 31 à 33. Cet homme qui était aveugle, il dit ceci. « Nous savons, dit-il, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est quand même frappant comme constat qu'il fait. Il ne connaît pas grand-chose, mais il arrive à la conclusion que cet homme est étroitement associé à Dieu, c'est sûr. Et là, on sent que cet homme progresse vraiment dans sa compréhension de ce qui est Jésus, de qui est Jésus. Mais encore une fois, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'homme ne s'arrête pas là non plus. Il a reconnu que c'est un homme formidable. Il va plus loin en se disant, c'est peut-être un prophète. Mais l'histoire continue. Et je reprends la lecture en verset 34. Les chefs religieux, qui sont là maintenant convaincus du fait que Jésus est un homme mauvais, un pécheur, lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Et bien là, les pharisiens font une référence à une pensée courante de l'époque. C'est quelqu'un qui est né aveugle. Il y a juste deux explications possibles. Et on a vu ça avec la question posée par les disciples tout au début de notre texte. Soit il est pécheur lui-même, et on avait quand même une philosophie à l'époque que c'était possible de pécher dès le ventre de sa mère. On pouvait pécher à l'intérieur du ventre de sa mère. Je ne sais pas d'où vient cette pensée, mais c'était assez courant apparemment à l'époque. Ou peut-être c'était les parents qui ont péché. Mais s'il est né aveugle, quelqu'un a péché, et là les pharisiens décident, c'est toi! Tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes. Et ils le chassèrent de la synagogue. Et là, je continue avec le verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Verset 37, « Tu l'as vu ?» lui dit Jésus, « Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors, il dit l'homme, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Assez extraordinaire de suivre le cheminement de cet homme dans sa vision de qui est Jésus. Vraiment, nous ne savons pas ce que cet homme qui était aveugle et qui maintenant voit, ce qu'il comprend de cette phrase « Fils de Dieu ». Mais ce qui est clair, c'est que cet homme accueille la lumière qu'il reçoit de la part de Jésus. Il avance, étape par étape, en commençant avec un tout petit peu de lumière au début. C'est un homme formidable. Et puis ensuite, en ayant encore un peu plus, il avance, c'est peut-être un prophète. Et puis là, en verset 35, c'est Jésus lui-même qui vient chercher cet homme pour se révéler de manière plus complète à lui. « Je suis le Fils de Dieu », il dit. « Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, je crois. » Et puis, il se prosterne devant lui. Et je ne sais pas ce que toi tu comprends aujourd'hui de la phrase « Fils de Dieu ». On l'a chanté tout à l'heure, on en parle beaucoup. Et peut-être cette phrase reste encore un peu floue dans ta tête, tout ce que ça implique. Et j'aimerais te dire, c'est pas grave. Ce qui m'encourage en lisant ce texte, c'est que Jésus nous invite tout simplement à avancer, à progresser, petit à petit, avec la lumière qu'on a. La lumière qu'il nous donne. Et si on accueille le peu de lumière qu'on reçoit de lui, et on avance avec ça, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il donne encore, et encore, et encore. Il se révèle à nous petit à petit, jour après jour, avec une lumière grandissante, comme le lever du soleil. Et cette pensée me provoque à me poser une question. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes en entendant ça. Mais voici la question que je me suis posée cette semaine en méditant ce texte. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas, aujourd'hui avec la lumière que Jésus te donne? Comment est-ce que Jésus se révèle à toi en ce moment? Et est-ce que tu accueilles cette lumière-là? Est-ce que tu es en train de progresser dans ta connaissance de lui? Ou est-ce que tu restes bloqué avec un tout petit peu de lumière que tu as reçue de sa part il y a des années? Peut-être tu as caché sous un seau. Effectivement, tous n'accueillent pas la lumière de Christ de la même manière. Et avec le peu de temps qui me reste, j'aimerais juste examiner deux autres réponses possibles deux autres catégories de personnes face à l'arrivée de la lumière de Dieu, Jésus-Christ, dans le monde. Il y a ceux qui n'accueillent pas la lumière d'un nouveau jour, qui rejettent cette lumière. Et puis, ceux qui ont peur de se positionner. Là, je reprends la lecture en verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, comme on vient de voir avec cet homme aveugle-né, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Verset 40. Quelques pharisiens, là on parle des chefs religieux qui étaient avec lui, entendent dire ces paroles et lui dire, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste. » C'est quand même intéressant de noter que les pharisiens dans ce texte et dans l'évangile de Jean en général, ne sont pas que des chefs religieux. À leur époque, ces chefs religieux étaient aussi un peu des gardiens, je ne sais pas si on peut dire des sentinelles sur le plan culturel. La religion et la culture étaient tellement intimement associées que c'était eux qui décidaient les règles de la culture. Je ne sais pas si vous parlez en France de cancel culture. Si je dis ça, est-ce que ça vous parle? Cancel culture, la culture de... Ouais, annulation peut-être. Ben, pour ceux qui n'ont jamais entendu cette idée, c'est hyper présent aux États-Unis en ce moment. L'idée, c'est que ceux qui ont la plus grande influence sur le plan culturel décident que tu ne respectes... En fait, s'ils décident que tu ne respectes pas les règles, que en général, c'est eux qui ont fixé ces règles, en fait, si tu ne respectes pas les règles, alors on va chercher à te supprimer, à te faire taire, puis même à te faire disparaître. Souvent, ça se passe dans les réseaux sociaux. On t'annule, on ne t'écoute plus. Et aux yeux des pharisiens, Jésus ne respecte pas les règles que eux, les pharisiens, les gardiens, les sentinelles de la culture, eux, ils ont fixé. Et donc, ils cherchent à discréditer ses œuvres, à saper son influence, à supprimer sa voix, et puis on verra, à mettre fin à sa vie. C'est comme Jean dit tout au début de cet évangile qu'on a vu il y a des semaines. Il a dit en Jean chapitre 1, « La lumière brille dans les ténèbres ». Mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Là, on est face à cette réalité, ici en Jean chapitre 9. Et on était face à ça en Jean chapitre 8 la semaine dernière. En verset 39, Jésus nous dit que sa présence dans le monde, la présence de cette lumière, aura deux effets. Elle ouvre les yeux des aveugles, de ceux qui reconnaissent que je ne vois pas clair, ou je ne vois pas du tout. Et... elle rend aveugle ceux qui voient. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la meilleure réponse à cette lumière, c'est d'en demander plus. Seigneur, je ne vois pas bien, je le reconnais. J'ai besoin de ton aide pour mieux comprendre, pour mieux te connaître, pour mieux vivre cette vie que tu me donnes. Je n'arrive pas tout seul. Ouvre mes yeux, Seigneur, par ta grâce, pour que je voie. Ouvre mon intelligence, Seigneur, par ta grâce, pour que je comprenne. Touche mon cœur, Seigneur, pour que je croie, parce que je n'arrive pas tout seul. Ça, c'est la bonne réponse. Et ceux qui se reconnaissent comme aveugles, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec cette lumière? Et cette lumière ouvre les yeux pour que je voie, comme l'aveugle naît. Mais la mauvaise réponse à cette lumière, comme on voit chez ces pharisiens, c'est de faire comme si je vois déjà très très bien. Je comprends tout, déjà. Je gère tout déjà, donc je n'ai pas besoin de la lumière de Jésus. Mes yeux fonctionnent très bien, je te remercie. Et voilà l'attitude des chefs religieux quand ils posent la question, nous aussi sommes-nous aveugles? Ne nous mets surtout pas dans le même panier que cet aveugle-né. Ne nous associe surtout pas avec ces sales pécheurs qui t'entourent tout le temps, Jésus. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes les enseignants d'Israël. Et je peux me mettre à l'extérieur de cette histoire en voyant ces pharisiens en disant, les pauvres, ils n'ont rien compris. Mais j'avoue qu'en méditant ces versets, pour me préparer pour ce soir, j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant. Je trouvais que je peux ressembler à ces hommes parfois. Je trouve dans mon cœur parfois une attitude semblable. Et j'ai pensé à plusieurs situations ces dernières années. En tant que pasteur, quand quelqu'un de plus jeune, quelqu'un peut-être avec moins d'expérience dans l'église ou dans le ministère, peut-être quelqu'un avec qui je n'étais pas tout à fait d'accord sur le plan doctrinal, qui n'avait pas très bien compris, qui n'avait pas le bon vocabulaire, a osé me reprendre ou me corriger ou chercher à m'enseigner quelque chose. Et plutôt que de me poser la question, est-ce que peut-être Dieu a quelque chose à me dire par la bouche de cette personne? Quelque chose à me révéler? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas bien encore? Un domaine dans mon cœur où il y a encore des ténèbres? Plutôt que de répondre dans l'humilité en accueillant cette lumière de la part peut-être de quelqu'un que je voyais comme inférieur, je pouvais répondre intérieurement avec la même réponse des pharisiens. Mais comment est-ce que tu oses m'enseigner? C'est moi l'enseignant. C'est moi le pasteur. Et j'imagine, les amis, que je ne suis pas seul. J'espère en tout cas que je ne sois pas la seule personne concernée par cette attitude-là. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas formé sur le plan théologique, même si tu n'enseignes pas la Bible, c'est possible quand même de te mettre dans une position de supériorité par rapport aux autres qui comprennent moins ou qui ne voient pas très clair. Et d'imaginer que j'ai tout compris, je gère tout, je n'ai plus besoin qu'on m'instruise. C'est à moi d'enseigner les autres. Dans notre texte, Christ parle au chef religieux par la bouche d'un mendiant, d'un aveugle né, d'un gars qui est en bas de l'échelle sociale. Et ces chefs refusent d'accueillir sa lumière. Et la question que je me pose, c'est par quelle bouche est-ce que Christ cherche à me parler en ce moment? Parfois, ça peut être même par la bouche de mon enfant Wesley. C'est souvent le cas, justement. Est-ce que je suis prêt à accueillir sa lumière ou pas? Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. C'est une déclaration extraordinaire et je n'ai pas le temps de creuser ça maintenant avec vous. J'espère cette semaine, dans les petits groupes, on aura le temps d'y aller en plus de profondeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Si tu acceptes ma lumière, dit Jésus, qui révèle ton aveuglement, ta pauvreté, ta faiblesse, si tu dis tout simplement « Oui, Seigneur, tu as raison, je suis d'accord avec toi. » Même après toutes ces années, je ne vois pas clair. Je ne vis pas comme tu me demandes de vivre. J'ai du mal à croire. Aide-moi, Seigneur. Alors là, le Seigneur Jésus lui-même efface tes péchés. Le Seigneur Jésus te donne encore plus de lumière. Le seul grand danger pour nous, les amis, pour moi, c'est si j'insiste sur le fait que moi, je vois bien. Je comprends. Je gère. Je me débrouille très bien tout seul. C'est là, cette attitude-là, qui fait que mon péché reste, selon Jésus en verset 41. Ok, donc on a vu un homme qui accueille la lumière de Christ, la lumière d'un nouveau jour. On a vu un homme ou des hommes qui refusent d'accueillir cette lumière. Et maintenant, je conclue rapidement avec une dernière catégorie. C'est des personnes qui ont peur de prendre position. Et là, on voit dans les versets 18 à 23 des personnages sur lesquels je ne me suis pas trop focalisé. Ils ne sont pas au cœur de ce passage, il faut qu'on soit clair. Mais je pense qu'on risque de rater quelque chose si on passe à côté des parents de l'aveugle né. Les chefs religieux font venir les parents, ils veulent savoir si l'homme était vraiment né aveugle. Et là, je lis à partir du verset 20. Ses parents leur répondirent, donc ils répondent aux chefs religieux, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Puis verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Pourquoi? Parce que les gardiens culturels, qui avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Et donc là, c'est quand même intéressant parce que c'est pas facile de prendre position face aux gardiens, face aux sentinelles culturelles qui excluent ceux qui ne pensent pas comme eux, qui sanctionnent d'une manière ou d'une autre ceux qui ne suivent pas les règles dominantes de la société. Et je pense que nous sommes tous concernés par cette peur-là. C'est plus simple de laisser d'autres prendre les risques, se mouiller, se mettre en danger en s'identifiant ouvertement, publiquement, avec la lumière révélatrice, la lumière restauratrice, la lumière aussi provocatrice de Jésus-Christ. Mais, et c'est avec ça que je termine, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ce que nous voyons dans l'expérience de cet homme aveugle-né, ainsi que des autres disciples de Jésus-Christ, notamment dans les livres, le livre des Actes, c'est que Christ lui-même, il se révèle d'une manière particulière à ceux qui sont méprisés, rejetés, exclus, persécutés à cause de son nom. Il y a un bonheur, Jésus dit, heureux quand les hommes vous persécutent. À cause de mon nom, il y a un bonheur, même une joie qui est le fruit d'une prise de position explicite, publique, en lien avec la lumière de Jésus-Christ. Et la conscience de ce bonheur et de cette joie, c'est quelque chose qui peut nous encourager face à notre peur, face aux décideurs, aux influenceurs, aux gardiens culturels qui mettent de la pression pour qu'on suive les règles, qu'on respecte le cadre. La conscience de ce bonheur qui appartient à tous ceux qui souffrent avec Jésus peut nous encourager à y aller quand même. Je vais m'arrêter là et j'aimerais introduire un petit moment qu'on appelle la Sainte Cène. Et on va garder en tête ces trois catégories de personnes, ceux qui accueillent la lumière de Jésus, ceux qui n'accueillent pas, qui rejettent plutôt la lumière de Jésus, et ceux qui ont peur de prendre position. C'est vrai que, en gardant ces catégories en tête, je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs actuellement. C'est possible qu'en écoutant cet enseignement, que vous vous sentez directement concerné par l'une ou l'autre des deux dernières catégories. Peut-être qu'il y a un sentiment de honte, de culpabilité. Il y a un certain poids sur ton cœur parce que tu te dis « Oh, je reconnais que je suis un peu comme Nico. Je peux me mettre dans une position de supériorité où je refuse d'accueillir la lumière qui peut venir des autres. » Peut-être ça fait un moment où je n'ai pas vraiment progressé dans ma connaissance de Christ, tellement je suis juste dans mon monde. Et peut-être qu'il y a une petite voix qui aurait envie de te condamner face à cela. Regarde ça, tu es nul. Peut-être tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'as rien compris. Et ce qui est vraiment super, c'est que la Sainte Cène, c'est le moment pour faire taire cette voix-là. Pour reconnaître que s'il y a quelque chose qui bouge dans ton cœur, il y a une conscience peut-être d'écartement, de refroidissement, d'orgueil, de péché. C'est pendant ce petit temps de réflexion qu'on revient à Jésus, on dit, tiens, Jésus, voilà ce que je vois. Voilà ce que je reconnais. Mes yeux s'ouvrent et je suis conscient de ce péché. Et comme l'homme aveugle-né, je reviens vers toi et j'accueille ta lumière et j'accepte ton pardon. Et je te demande de me délivrer, Seigneur. Peut-être tu reconnais que tu es quelqu'un qui a plutôt peur de parler ouvertement de Jésus. Ça fait un moment que, depuis la dernière fois que tu as ouvert ta bouche pour parler de lui. Peut-être même récemment, tu étais dans un contexte où des personnes de ton entourage ou des collègues sont moqués de religion ou, je sais pas, de chrétiens. Et tu n'osais pas ouvrir ta bouche. Et là, pareil, il y a une voix qui veut te condamner. Alors là, le moment de la Sainte Cène, c'est le moment justement d'accueillir la lumière de Jésus-Christ et de recevoir de nouveau sa grâce. De dire, Seigneur, je me souviens de ce moment et je suis désolé. Je confesse mon péché et je te demande de venir me guérir, me pardonner, purifier mon cœur. Je propose juste ces versets pour nous encourager dans notre méditation ici. 1 Jean chapitre 1, verset 5, où Jean dit ceci: Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen.